RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est un sacré défi que vont s'atteler ce samedi soir au Stade de France les rugbymen du Montpellier Hero Rugby. Ils vont devoir tout simplement faire ce qu'aucun club français ou même européen n'a réussi à faire lors des 11 dernières finales disputées par le monstre à 30 pattes, le Stade Toulousain, tirant sans égal des finales de la Champions Cup et surtout du top 14. 24 boucliers de Brennus d'un côté, celui de Toulouse, contre un seul décroché il y a 4 ans par Montpellier. Sur le papier, il n'y a pas photo. On pourrait même se demander si pour le MSC, cher, cela vaut vraiment la peine d'aller disputer cette finale. Mais vous allez le voir et surtout l'entendre durant ce podcast, l'affaire ne sera peut-être pas aussi simple que cela pour le grand Stade Toulousain. Montpellier a des arguments à faire valoir, on va les détailler durant cet épisode d'Entre les poteaux. Pour cela, j'ai fait appel à la fine fleur des journalistes et des consultants d'RMC Sport, avec notamment un garçon qui, en son temps, bon, c'était au 20e siècle, sinon au 19e
oui,
siècle,
20e.
A touché le bouclier voilà, avec le Stade Toulousain.
C'était trois fois.
Ah oui, trois fois.
Mais
trois
on était au début, c'était les prémices de cette grande.
C'est toi qui as lancé en quelque équipe, sorte voilà, cette grande équipe, en quelque sorte.
Pas que moi.
Denis Charvet, évidemment, vainqueur du championnat de France et du bouclier de Brennus à 3 reprises. Et donc un peu le grand-père ou l'arrière-grand-père de toute cette génération. Et puis, évidemment, de la partie nos reporters qui, au quotidien, suivent l'actualité des deux finalistes. J'ai nommé Wilfried Templier, patron de la cellule rugby, qui s'occupe des Toulousains. Salut Will.
Salut tout le monde.
Et Julien Landry pour Montpellier. Salut mon Jules, comment ça va?
Salut messieurs, je te confirme salut, que messieurs. Les Montpellierains seront bien dans le train demain pour le Stade de France.
Ah
alors
oui.
Après, est-ce qu'ils vont jouer le match? Je sais pas, mais en tout cas, ils montent à Paris pour ce week-end.
Regarde
ce qu'ils vont décider de faire, mais ils seront là.
Ils sont vexés, les Montpelliérains, qu'on ne fasse que peu de cas de leur qualité. Je le disais, le défi est immense pour Montpellier. Un casse-tête quand 20 ans de finale de top 14, ni La Rochelle, ni Bordeaux, ni même Toulon ou Clermont ne sont parvenus à faire, à savoir battre le tyran des finales, le Stade Toulousain, invaincu à ce stade de la compétition depuis 2006. Ça fait 8 finales du championnat disputées depuis et toutes remportées.
C'est Tony Eltaba qui est passé.
Oh là là, Eltaba
Il a crucifié La Rochelle. Il a crucifié La Rochelle.
C'est
Eltaba à 2 minutes de la fin. Il en prend de tout et ça va aller à l'essai. 8e essai. Attention, il travaille, Capozzo, il remet les jambes, il va y aller ou pas? Capozzo, essai! Le 9e essai toulousain, en quoi? C'est une orgie, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça! Un essai de 100 mètres, c'est terminé! Jamais rassasié! Après une 6e Champions Cup, le Stade Toulousain décroche un 23e bouclier de Brennus!
Peut-être la dernière action de la saison ou la prolongation, Maxime Lucu! 40 mètres à droite, ce ballon qui va partir et qui passe.
Il passe.
Prolongation. 33 partout. 33 partout.
C'est fou.
33
c'est fou,
partout. Ramos qui s'élance. Vous entendez la sirène, à moins qu'il la loupe, mais ça prend pas le chemin. Le ballon qui passe entre les paires.
Et c'est le Stade Toulousain gagné.
Le Stade Toulousain, champion de France, cette génération est inarrêtable. Le triplé pour Toulouse, victoire 39 à 33, comme toujours en finale. Le Stade Toulousain est le roi.
Voilà quelques extraits des nombreux titres et des nombreuses finales remportées par le Stade Toulousain. Incroyable réussite que celle de ce club
on
qui possède.
La Rochelle était pas loin quand même.
On le sent, la souffrance.
La Rochelle était pas loin quand même.
Ah oui, Wilfried, ça lui fait mal.
Oui, alors Wilfried était...
Il sent la souffrance quand il commence à souffrir.
Mais c'est un peu la souffrance que tu vas connaître, Julien, peut-être samedi, on verra. Enfin, pour l'instant, tout va bien. Mais ça va chambrer. Denis, incroyable quand même, cette science des finales. De temps en temps, il arrive au Stade Toulousain de perdre en demi-finale, de perdre en quart de finale, ce qui s'est passé en Champions Cup cette année, mais en finale, non.
Bah, oui,
comment t'expliques ça?
Le culte de la gagne de ces finales.
Oui, mais le culte de la gagne, tu peux l'avoir en quart de finale, en demi-finale.
Oui, mais tu... Le problème, c'est que ça fait des années que ça dure. Donc, il y a une accoutumance, il y a une préparation, ça s'appelle l'expérience à force. Je crois que c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ne renoncent jamais. On l'a vu contre La Rochelle, ils ont cru jusqu'au bout. Et ils sont allés implanter cet essai de de Romain Tamac. Mais je crois qu'il y a une culture. Wilfried pourrait mieux en parler que moi, parce que ça fait des années qu'il est auprès du Stade Toulousain. Mais il y a une vraie culture par rapport à ça. On dit toujours qu'ils sont toujours dos au mur. Ils ont toujours des ressorts pour. Ils pensent que la terre entière leur en veut et tout ça. Et bien, ils jouent là-dessus et chaque fois, et bien, ça marche parce que en fait tout le monde. En plus, personne ne leur en veut, quoi. C'est toujours ils sont admirés de tout le monde. Et Hugo fait croire que
ils sont admirés, ils sont jalousés.
Ils sont pas admirés par tout le monde. Ils sont admirés par beaucoup de monde. Il y a une très grande colonie de supporters du Stade Toulousain. Bah oui. Effectivement, la plus grande certainement en France, hein, parce que succès après succès, titre après titre. Eh bien, ça recrute des jeunes supporters, évidemment, qui aiment les équipes qui gagnent. Et puis, ils ont beaucoup de supporters. On peut pas dire qu'ils sont admirés par tout le monde.
Non, mais par beaucoup. Je veux dire, après, t'as des clubs qui le vont. Non, mais c'est normal.
Voilà, ils sont jalousés, évidemment.
Que la meilleure équipe soit championne de France chaque année, c'est pas un problème, en fait.
Mais est-ce que ça a toujours été la meilleure équipe de temps en temps? De temps en temps, elle a été quand même challengée, ne serait-ce que par Bordeaux l'année dernière, par La Rochelle les années précédentes, par Clermont.
Ça fait combien d'années que Toulouse est le principal pourvoyeur de l'équipe de France? Ça fait combien
bien sûr.
Que
non, mais de temps en temps, c'était à touche-touche. Mais même à touche-touche, Julien, c'est toujours Toulouse qui gagne les finales. Quoi.
24
sur 30. Je pense que cette génération est exceptionnelle.
Mais
pour
c'est
moi.
Pas que cette génération. Bah, ça part de ça part des années 80.
Christophe, elle est quand même particulièrement exceptionnelle. Depuis 2019, ils ont pris 7 des 8 Brennus quand même.
Et Wilfried, la génération des Castagnettes, Califano, Delo, c'était
5 des 6.
C'est pas loin, c'est à touche-touche là aussi. Alors, cette culture de la GAN, on vient d'en parler, inculquée dès le plus jeune âge à tous les gamins de l'école de rugby du stade. Mathis Lebel en a fait partie avant de devenir un membre éminent de l'équipe première, il nous en parle.
Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait par le staff pour nous garder en alerte, donc ça c'est quelque chose qu'on cultive. Je pense aussi qu'il y a cette émulation qu'il y a dans l'équipe. On reconnaît souvent une bonne équipe, pas forcément qu'aux gens qui sont cochés sur la feuille de match, mais à ceux qu'on laisse sur le côté. Aujourd'hui, quand on voit certains noms qui n'ont pas participé à cette demi-finale, tu te dis bon, c'est quand même bien d'assumer quand t'es sur le terrain, donc ça nous permet de nous garder en alerte. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qu'on cultive dans ce club depuis tout petit, où on a la chance d'être beaucoup à être passé par le centre de formation les équipes jeunes, cette culture de la gagne qu'on cultive et qu'on lâche pas, donc c'est peut-être ça qui nous permet de switcher au bon moment.
Denis, à l'école de rugby, on vous parle de la finale du top 14 ou du championnat. À l'époque, pour toi, c'était pas encore le top 14.
Non, mais
non, quand même pas. Non,
je pense qu'il y a beaucoup dans la transmission aussi. Je crois qu'ils sont élevés au biberon à cette culture de la gagne dont parle le Bel. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, mais c'est pas que le Toulouse, c'est toute une région, hein, Wilfried. Hein, il faut parler quand même des joueurs qui arrivent, qui sont. C'est pour ça, moi aujourd'hui, je pense que la génération en qualité.
C'est un aimant, le Stade Toulousain est un aimant pour toute la région autour.
Mais en qualité, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de qualité, c'est ce que je voulais dire. Peut-être pas. Meilleure génération, ça ne veut rien dire, mais je veux dire, en qualité pure au niveau d'un effectif, c'est extraordinaire.
Non, mais le Stade Toulousain est adulé dans la région autour de lui, et effectivement. C'est le stade, hein, comme on dit dans le coin. Hein, voilà, c'est pour eux, effectivement. Mais on l'a expliqué mille fois, parce que c'est aussi parce que dans toutes les strates du club, il y a des anciens. Quoi. Voilà, il y a Didier Lacroix qui est président, il y a Jérôme Cazalbou qui est en dessous, il y a Hugo Mola, il y a Clément Poitronneau, il y a Jean Bouillou, il y a Michel Marfin au centre de formation, il y a Mylène Tamac qui est pas loin, voilà.
Garbajosa qui vient de rejoindre le club.
Garbajosa qui est revenu aussi au club, effectivement.
Il manque que Charvet, en fait, là-dedans.
Et ces hommes ont gagné avant. Donc ils connaissent la recette, ils savent quoi dire aux jeunes, justement, quoi transmettre, et la transmission c'est essentiel dans ce club.
Mais non, mais c'est
et d'ailleurs, Julien, d'ailleurs, on en parlait avec Joanne Codulo ce dimanche dans l'Intégral Sport, Montpellier quelque part a calqué un peu le modèle toulousain, puisque aujourd'hui les patrons du sportif et à toutes les strates du club, on a des anciens joueurs, notamment Loupi Camol par exemple.
Oui, ça a été une volonté déjà initiée par Jean-Baptiste Elissalde quand il était entraîneur. D'ailleurs, en 2022, quand Montpellier est devenu champion de France, c'était déjà une volonté.
Ou un Roche.
Oui, mais sauf que Jean-Baptiste Elissalde, il sait la recette qui marche. Il a vu à Toulouse, donc il s'est dit, je vais la remettre à Montpellier. Donc avec déjà une idée claire, c'est-à-dire que le projet de jeu joué par l'équipe première, elle est jouée par les Espoirs, par les à la Mercerie, par les Cadets, par les Goderman. Donc c'est-à-dire que toutes les équipes jouent de la même manière. Et à Toulouse, c'est ça. À Montpellier, maintenant, on a mis ça. Et effectivement, depuis que Johan Coudreau est arrivé... Avec une identité, c'est-à-dire qu'à Montpellier, on a décidé d'avoir l'ADN de la conquête, de la défense. Et toutes les équipes vont jouer pareil. À Toulouse, ils font tous pareil. Et à La Rochelle, ils font pareil. À la section paloise, on commence à avoir pareil. Toulouse fait des émules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les jeunes, dans le staff, il n'y a que des anciens Montpellierains. Il y a Anthony Floch qui s'occupe des Goderman. Il y a Picamol qui s'occupe des cadets. Il y a des anciens à quasiment tous les étages du club. Fulgence Ouédraogo n'est pas sur le terrain, mais il est dans les bureaux pour l'ADN. Ils sont en train d'essayer de faire revenir François Trinduc, essayer de faire revenir Julien Thomas. Tous les gens qui ont marqué ce club vont finir par revenir au sein du club. Ouais. Et effectivement, c'est plus facile de s'identifier et de mettre un projet avec des joueurs qui connaissent le club.
Voilà, c'est peut-être la recette qui marche, on l'a vu, donc avec cette magnifique saison réalisée par le MHR. On va en parler tout à l'heure du MHR. Le Stade qui va donc, en attendant, de tenter de décrocher un quatrième bouclier consécutif, qui serait aussi le sixième en cette saison, là, dit tout à l'heure. La seule ombre au tableau, c'est la saison 2021-2022, où le MHR, justement, était parvenu à se faire une petite place au soleil et à inscrire son nom sur le bouclier. Mais cette année-là, Wilfried, Toulouse n'était pas en finale, battu quelques jours plus tôt. Hein.
Oui. Mais c'est une année dont ils ont tiré beaucoup d'enseignements, parce que souvenez-vous, c'est une année où ils ont été jusqu'en demi-finale Champions Cup. Ils ont fait des prolongations au Munster et des tirs au but. Et c'est l'année aussi où le 15 de France avait fait le grand chelem, donc où les joueurs étaient rincés à la fin et s'étaient inclinés contre Castres en demi-finale. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit plus jamais ça, on ne va plus jamais gérer la saison comme ça. Et ça leur a plutôt bien réussi derrière, puisqu'ils ont enchaîné trois boucliers de suite, mais c'était vraiment une année où ils avaient mal géré les temps de jeu. Et puis en plus, il me semble, 21-22, c'est quand ils avaient joué un barrage en plus, face à La Rochelle. Ils étaient passés par un barrage, donc ils n'étaient pas dans les deux premiers. À partir de ce moment-là, ils se sont dit on ne gère pas pareil et on finit dans les deux premiers. Absolument, c'est la priorité absolue. Ça leur a bien réussi derrière.
Depuis, ils ont à chaque fois terminé dans les deux premiers du top 14. Cet obstacle des demi-finales, donc là où ils avaient chuté il y a quelques années, n'aura été qu'une formalité cette saison pour Toulouse, qui n'a fait qu'une bouchée du Racing. La semaine dernière, on le rappelle, balayé 71-17, une démonstration de force à laquelle les Montpellierains ont assisté avant de livrer bataille le lendemain. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été impressionnés. On va écouter Enzo Forletta, le pilier montpellierain, nous parler justement au lendemain et après cette qualification de Montpellier, de cette incroyable armada à toulousaine qui fait peur.
On a rendez-vous avec le plus gros morceau de notre histoire, je pense, pour ce groupe. Je pense que voilà, c'est la meilleure équipe du monde, donc voilà, il va falloir tout donner et voir ce qui se passe, parce que quand on voit la qualité de cette équipe, on ne va pas se cacher, ils sont deux crans au-dessus de nous, ils sont deux crans au-dessus de tout le monde, j'allais dire, même dans toutes les équipes françaises. Donc voilà, quand ils sont comme ils sont là, c'est magnifique à voir. Moi, quand je regarde des matchs comme ça, je me régale, moi qui aime le rugby. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de chacun individuellement de sortir la meilleure partie, et après on verra ce qui se passera.
Voilà, on verra ce qui se passera.
Je pense que ça n'a pas dû plaire à Bernard Laporte. Deux crans au-dessus de nous.
C'est la meilleure équipe du monde.
C'est la méthode Coué.
C'est la méthode, c'est ça.
On les voit arriver à 10 km.
Mais oui, évidemment. On est une toute petite équipe. On va pas faire le poids face à
David contre Goliath.
C'est ça. Non, mais ça, c'est traditionnel.
Non, mais alors, pour l'État, il joue devant. Donc, il ne peut pas penser qu'ils sont deux crans au-dessus, parce que devant, c'est quand même.
Ça me rappelle Julien, la finale de 2011, justement, où il y avait eu un avant-match incroyable entre les staffs. Eric Béchu, à l'époque,
il se renvoyait la patate chaude.
Il avait dit on n'a aucune chance. Et on l'avait dit Yannick Bru. Yannick Bru nous a dit qu'il n'a qu'à pas venir alors au Stade de France. Voilà, c'était que des trucs comme ça. Et je pense que les Montpellierains, pour ce qu'on a entendu, c'est de bonne guerre.
C'est le discours tenu dès samedi soir et par Joan Codulo, et par Baptiste Erdosio, et par Enzo Forletta, et encore par Joan Codulo. Ils savent que quand Toulouse est en mode comme on l'a vu vendredi soir, c'est une équipe qui est difficile à arrêter. Joan Codulo le répète, il se dit que pour battre Toulouse, il faut que Toulouse ne soit pas à 100% et que les Montpellierains soient à plus de 100%. Il se dit qu'à chance égale, ils auront peu de chance contre Toulouse. Mais Joan Codulo a dit on va préparer quelque chose, on y va pour faire la guerre, on ne va pas passer pour des cons, ils vont aller faire le match. Mais ils savent que pour remporter ce match-là, il faudra aussi qu'il y ait des petites faits de match qui tombent dans leur sens.
Évidemment, il faut que toutes les
Denis, à armes égales, on a beau, même si c'est des éléments de langage, à armes égales, Toulouse est supérieur à Montpellier, très clairement.
Non, mais il faut que les planètes soient liées.
Montpellier a des armes. Oui.
Qu'effectivement, ça relève de l'exploit véritable. Montpellier, oui, est en dessous. Il faut être honnête.
Denis, n'oublions pas. Non, mais Christophe, juste n'oublions pas quand même. Vendredi soir, il manque au Stade Toulousain Anthony Jolonche, Thomas Ramos,
Malia.
Il manque des joueurs qui seraient des titulaires indiscutables dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il leur manque 5 cadres. Non mais ça veut dire
qu'ils roulent sur le
Racing, donc Montpellier et même toutes les équipes. Toulouse, ils ont battu le record de points cette saison. Ils passent 40 points à toutes les équipes cette saison. Donc évidemment que tu vas en faisant profil bas et tu vas pas dire oh mais nous Toulouse on les regarde dans les yeux et on y va pour leur casser la gueule.
Mais est-ce qu'il y a pas quand même quelque part une sorte de complexe vis-à-vis de ce Stade Toulousain de tous les autres clubs français? Je parle pas seulement de Montpellier.
Justement, dans la gestion de cet événement, il faut travailler sur le complexe parce qu'il faut pas qu'il y ait de complexe. Mais tu as raison.
Tu n'arrives pas en finale, Denis, qu'il soit déjà rentré dans ta tête. Quoi.
Il peut y avoir un léger complexe.
Le Racing, franchement, on a l'impression qu'il...
Ils n'ont pas fait le complexe, ils ont explosé physiquement.
Ouais, mais il n'y avait pas que ça.
Il manquait l'expérience aussi, l'expérience de ces matchs-là de très haut niveau.
Pour aller dans ton sens, c'est ce qu'a dit Johan Codulo quand on l'a rencontré lundi. Il a dit, je ne veux pas qu'on fasse le Racing, il ne faut pas qu'on les regarde dans les yeux. Nous, on sait faire un certain rugby, mais il faut qu'on aille faire ce rugby-là. Et ce rugby-là, il peut-être, dans un bon soir, comme au match aller en septembre, où ils avaient passé 40 points à Toulouse, il a dit, je veux pas qu'on ait des regrets à la fin. Je veux qu'on ait joué notre rugby, pas qu'on les regarde. Parce que si on regarde Toulouse jouer, évidemment, ils vont se faire des passes dans notre dos, ils vont jouer debout et on va se faire éclater. Donc, notre but, c'est de jouer notre jeu.
Puis surtout, ce match de Toulouse, c'est un trompe-l'œil pour moi.
Ce 71-17,
mais non,
là,
parce qu'on les met très très haut. Évidemment, ils sont très très haut, ils sont très forts, mais ils sont très forts face à une équipe qui était absente. Absente totalement. Donc, il n'y a pas eu combat, il n'y a pas eu affrontement, il n'y a pas eu compétition. Il n'y a pas eu de défense. Quand je disais en trompe-l'œil, on ne peut pas se baser sur un match comme ça. Ce n'est pas un match du tout de référence, au contraire. C'est-à-dire que. C'est quoi le vrai véritable niveau des Toulousains aujourd'hui?
On le verra samedi.
C'est pas que je veux me tromper ou pas. Peut-être qu'ils sont à ce niveau-là et que ça va.
Ouais. On pensait qu'ils étaient à un autre niveau avant cette demi-finale. Oui. Rappelez-vous ce qu'on disait.
Après, ils ont
Toulouse est vraiment au niveau. Ils ont montré.
Après, ils ont rassuré tout le monde.
Alors, complexe d'infériorité ou non, il n'empêche les chiffres, les stats et tout le reste donne évidemment Toulouse gagnant son parcours en championnat cette saison, sa fraîcheur, son envie de revanche après la défaite. En Champions Cup, les critiques qui ont suivi donnent beaucoup d'arguments en faveur d'une victoire toulousaine. Malgré tout, Montpellier, je le disais, a des arguments à faire valoir. Julien, tu suis cette équipe au quotidien depuis des saisons maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la saison réalisée par le MHR est tout simplement incroyable.
Oui, 23 victoires sur les 26 derniers matchs, 11 victoires consécutives. Alors la dernière équipe qui a battu Montpellier, c'est Toulouse. C'était au mois de mars, un jour où Montpellier avait fait tourner. Mais Montpellier a des arguments à opposer au Stade Toulousain. C'est aujourd'hui la meilleure défense de notre championnat. Donc Toulouse va se casser les dents sur la défense mise en place par Geoffrey Doumerou. Une défense qui va monter vite sur les extérieurs, qui va essayer d'aller chasser très fort au milieu du terrain, empêcher les Toulousains de jouer. Donc ça va être la première arme du MHR. C'est le meilleur contre en touche de notre championnat avec Florian Vérag et Lenny Nouchi. Et on sait que la plupart des essais toulousains sont construits sur cette phase de jeu de la touche. Donc les Montpelliérains ont des armes pour contester l'alignement en touche. Ils ont aujourd'hui, c'est l'équipe qui conteste le plus de ballons dans les rucks. Et on sait que Toulouse a besoin de vitesse. Donc on sait que les Nouchi, les Béconnier, qui est le meilleur gratteur de notre championnat, ils vont mettre les mains partout. Montpellier est l'équipe qui conteste le plus de rucks et qui est malgré tout la moins pénalisée de notre championnat. C'est-à-dire qu'ils font très bien les contre-rucks. Ils vont aller très bien empêcher les Toulousains de sortir le ballon. Voilà les armes des Montpellierains, sans oublier la mêlée. Où sur cette phase statique, aujourd'hui, les Montpellierains, ils ont récupéré 6 pénalités contre Pau, 5 pénalités contre Lyon, 5 pénalités contre les Stades français sur les 3 derniers matchs. Donc aujourd'hui, ils ont le paquet d'avant le plus dense et le plus dominant de notre championnat. Voilà les armes. Et après, il faudra aussi noter que Toulouse, cette saison, a eu des trous noirs. On se rappelle à Glasgow, on se rappelle contre les Saracens, on se rappelle ce quart de finale
contre
Bordeaux.
Et contre Montpellier aussi, contre Montpellier
Contre Bordeaux, ils encaissent à 25-0. Ils ont parfois des trous noirs dans un match. Et bien, ça va être des temps forts des Montpellierains, ou sur les temps forts des Montpellierains, contrairement à ce qu'ils ont fait sur le Stade français, il va falloir qu'ils marquent pour instiller le doute dans l'esprit des Toulousains. Voilà ce qu'il va falloir faire pour essayer de battre le Stade Toulousain. Ça fait beaucoup de choses, mais s'ils mettent tout ça, c'est possible.
On va revenir en détail sur tous les bonus et tous les avantages de Montpellier. Denis, tu
non, je rajouterais juste une chose, je pense que tactiquement, ils ont pris l'option aussi de mettre une grosse pression sur la charnière.
Ah oui ? Oui, bien sûr.
Julien.
Sur Toulouse. Tu parles.
Sur la charnière toulousaine. Un tamac, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, oui. Ouais. Donc il y a cette option là qui est on le comprend d'ailleurs.
Il y en a beaucoup qui ont tenté de le faire, un peu qui ont.
Je pense que les autres peuvent le faire aussi sur Miotti.
Oui. Bien sûr.
Pression, attention à la découverte de la finale pour certains. Ouais, ce qu'on disait, les Toulousains, ils savent faire, c'est que la maîtrise des événements, dans les temps forts.
Ils ne tremblent pas quand ils rentrent sur la pelouse du Stade de France, ils connaissent.
Et ils savent prendre les adversaires sur leurs points forts. Donc là, tout le monde va dire, et c'est pas une mince affaire pour Montpellier, sur la mêlée, évidemment, avec les deux premières lignes de niveau égal, on l'a dit toute l'année. Mais quand on s'est dit Toulouse va être attaquée là, elle va avoir des difficultés là, l'année dernière, le pack toulousain est passé sur le pack bordelais et c'était les deux tiers de la victoire. Donc ils relèveront certainement le défi, ils voudront relever le défi de la mêlée.
Et alors, en termes d'expérience, Christophe, juste une petite anecdote. En 2022, parce qu'on sait que la finale, c'est un long processus aussi pour les entraînements, pour la mise en place, parce qu'il y a tout le protocole d'avant-match avec le président qui va venir, le tapis rouge, tout ça. Et Jean-Baptiste Elissal m'avait raconté qu'il avait chronométré exactement le protocole d'avant-match et qu'il avait changé totalement l'entraînement des Montpellierains pour ne pas qu'ils perdent toute l'énergie sur ce protocole-là. Donc, ils avaient modifié tout l'avant-match en comptant ce protocole. Alors, est-ce que là, Johan Codulo va s'être inspiré de ça ? Les Toulousains, ils en ont l'habitude du protocole. Donc, pour eux, ce n'est pas un changement. Mais, comme le dit Wilfried, ces jeunes Montpellierains, Miotti qui n'a jamais découvert, Price qui va découvrir, il y a une dizaine de joueurs qui vont, pour la première fois, jouer une finale de top 14. Et donc, il y a tout ce long processus, ce long protocole cérémonial qui peut te faire perdre un peu d'énergie. J'entendais des joueurs qui disaient « Je cherchais ma famille, je ne l'ai pas trouvée. » Et donc, il y a tous ces petits repères que les Montpellierains n'ont pas et auxquels les Toulousains sont habitués.
Alors, on parlait de dynamique. Quelle est pour vous la dynamique la plus frappante et finalement gagnante de cette finale ? Celle de Toulouse et de ses finales remportées depuis 2006 ou celle du MHR et ses 11 succès de rang durant le printemps ? Qu'est-ce qui compte le plus finalement dans ces deux dynamiques bien différentes ? Denis, la dynamique actuelle ou la dynamique de la tradition toulousaine ?
Ah, la dynamique de la tradition toulousaine, me semble. Parce que c'est leur ADN, c'est une façon d'être, de faire, de se préparer à l'événement. C'est huilé, c'est la tradition, maintenant, elle est en place.
Donc les 11 victoires de rang du MHR, ça compte pas pour toi ?
Bah, c'est pas d'accord avec Denis. Pourquoi ?
Non, parce que les 11 finales, c'est pas les mêmes joueurs qui ont disputé ces 11 finales.
Non, mais ils en ont gagné.
C'est des générations. Mais c'est des générations différentes. Là, la série de 11 matchs, elle est pour les Montpelliérains. Et moi, pour suivre les Montpelliérains, je trouve qu'ils dégagent aujourd'hui un sentiment, non pas de puissance, mais de
confiance.
Ils sont sûrs de leur force, exactement. Quand le Stade français, ils ont marqué deux essais samedi soir, ils ont pris un gros coup sur la tête.
Oui, c'est vrai,
ils ne se sont pas affolés. Ils connaissent leur rugby. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont repris la main sur la conquête. Ils ont recontinué à taper dans le Stade français. Et je trouve que moi, cette dynamique les porte. Alors après, évidemment, les Toulousains, Wilfried l'a dit, ils ont remporté cette finale, donc ils ont l'habitude. Mais je trouve que cette dynamique, moi, apporte quelque chose à Montpellier.
On sait ce qu'on peut faire.
Parce qu'ils ont perdu 3 matchs depuis le début du mois de décembre, quand même. Faut pas l'oublier. C'est incroyable.
Non, mais cette dynamique Montpellier-Rennes. Ils ont un supplément d'âme aujourd'hui. Est-ce que ça suffira ? On n'en sait rien, on le verra samedi soir, mais c'est vrai que dans cette dynamique-là, il y a quelque chose qui me fait dire que oui, ils ont une force supplémentaire pour aller défier les Toulousains.
Julien, t'as retourné comme
non, il ne m'a pas retourné. Ce match samedi, c'est vrai que quand tu le revois dans le contexte qui était ce match-là, où ils étaient en train de perdre le contrôle, ils ont repris, ils ont remis le... Ils n'ont pas paniqué, donc c'est une force.
Une dynamique de victoire Montpellier-Rennes qui a aussi son revers, à savoir le nombre de matchs disputés, les efforts consentis pour en arriver là. La fraîcheur qui est si importante en finale sera clairement côté Toulousain samedi soir, d'autant qu'ils ont pu bénéficier d'une journée de récup supplémentaire par rapport à Montpellier. Montpellier qui a joué le samedi soir.
Ah oui. Ah oui,
ouais, oui, un jour, 24 heures de moins.
Un jour, 24 heures de moins. Et puis, ouais, on en parlait avec Joanne Codulo aussi, Julien, dimanche. Le raté de la FLD, quand même, c'est dingue. Le contrôle antidopage qui a fait que les Montpellierains ne sont rentrés à la maison qu'à 4h30 du matin, dimanche matin, alors que les Toulousains dormaient tranquilles après avoir regardé le match de Montpellier. Et ça, vu les chaleurs qui règnent actuellement sur le pays, ça peut aussi avoir son influence, hein, messieurs.
Oui, bien sûr.
Non, mais moi, il y a juste quelque chose qui me inquiète un peu plus pour les Montpellierains, c'est le nombre de matchs où ils ont un peu plus bataillé que les Toulousains, qui ont été éliminés en quart finale de Champions Cup. Même si Montpellier a pas mal fait tourner en Challenge Cup, ils ont quand même joué une finale. Ils ont été bataillés à Lyon aussi pour se qualifier, pendant que les Toulousains faisaient tourner. Je pense qu'en termes de fraîcheur globale, que Toulouse a fait, on nous a dit que Toulouse avait fait une préparation Coupe du Monde dans ce dernier mois, puisqu'on n'a pas vu l'équipe qui a joué en demi-finale, on ne l'a pas vu jouer en championnat, enfin en fin de saison. Donc ils se sont fixés que ces deux matchs en objectif demi-finale et finale, et que sur cette fraîcheur, voilà, que Montpellier, en plus avec ses 24 heures de moins, part avec un petit déficit de fraîcheur si importante qu'on vient d'évoquer.
La fraîcheur. Ce qui compte pour Fabien Galthié, c'est les fameuses 2000 minutes, tu sais. Il ne faut pas dépasser 2000 minutes. Il n'y a que trois Montpellierains qui ont plus de 1500 minutes dans la saison. Donc Tom Banks, 2061 minutes, Arthur Vincent, 1550, Gabriel Ngandébé, 1896, et c'est tout. Donc ça veut dire que tous les joueurs ensuite de l'effectif sont à moins de 1500 minutes. Donc ça prouve aussi
qu'il a réussi à gérer son
groupe. Alors effectivement, il y a eu aussi le challenge où ils n'ont pas toujours fait jouer les cadors. Il y a évidemment de la fraîcheur plus toulousain, mais les Montpellierains n'arrivent pas sur les rotules parce qu'ils n'ont pas disputé énormément de matchs sur la
saison. Ils ne sont pas dans le même état que l'UBB il y a deux saisons.
Exactement.
J'en ai parlé avec Bernard Laporte, il me disait que justement que Joko Dulo avait très très bien géré les gifs.
Les gifs.
Non, mais c'est important parce qu'il n'y a pas eu de. Donc il y a eu une très bonne gestion de l'effectif. Il me racontait, on parlait de ça justement, mais pour aller dans le sens de Julien. Il y a eu un vrai travail qui fait que, ben oui, la fraîcheur, ça veut dire qu'ils seront encore frais.
La fraîcheur sera donc à l'avantage du stade, mais en revanche, les Toulousains vont quand même aborder la finale amoindrie par les blessures des uns et des autres. Il reste encore des incertitudes, Wilfried, on est à trois jours de la finale, mais il va manquer du monde dans les rangs du champion sortant, notamment en troisième ligne où le stade est un peu décimé quand même. Hein.
Oui, mais alors apparemment, ce serait bon pour Alexandre Roumat, effectivement, parce qu'il y a des Anthony Gelonge, des Léo Banos qui sont absents, Castro Ferreira aussi, même si c'est pas un titulaire, mais effectivement Alexandre Roumat est sorti sur une entorse à la cheville à Marseille face au Racing. Il devrait être en mesure de tenir sa place, et l'autre très très important, bon, qui n'a pas empêché que Stade Toulousain les passe 70 points. Non, je voulais parler d'abord de Thomas Ramos qui est partant apparemment pour cette finale, hein, évidemment qu'il va devoir aussi qui s'est testé, il va falloir que ça tienne dans ces dernières heures. Il était blessé à l'ischio-jambier. Et Denis, oui, Choco Barrès, il y a encore une incertitude concernant Choco Barrès, qui est très très important aussi en point d'ancrage au milieu du terrain, hein, puisqu'il vient fixer les défenses et faire avancer dans un premier temps souvent les Toulousains. Et Choco Barrès, au moment où on se parle, donc on enregistre, on va dire aux gens ce podcast mercredi soir dans la semaine, eh bien il ne s'est pas entraîné, Choco Barrès. Il avait déjà eu des commotions, il était sorti de commotion, il a déjà eu des commotions cette saison. Donc là, il y a une grosse incertitude concernant Santiago.
Mais je comprends pas, si une commotion, normalement il devrait pas jouer, ou alors il a passé un protocole.
Quand je dis grosse incertitude, ouais, c'est à partir de maintenant, normalement c'est protocole, c'est HIA 1, 2, 3, c'est à 72 heures, 48 heures, 72 heures, voilà, donc après c'est opaque, hein, faut aller chercher les infos parce que semaine de finale, je peux vous dire que ça parle
pas
beaucoup.
Il y a beaucoup d'infos qui sortent. Du monde, il en manque aussi côté Montpellierin, même si là on est plutôt en mode retour de certains cadres du MHR, Julien. Mais bon, il y a toujours l'incertitude de Camara qui était déjà absent pour la demi, et joueur
forfait
essentiel.
Non, mais forfait certain. Hein, c'est plus
il est forfait. Ils avaient fait appel auprès de la commission de discipline.
C'est aujourd'hui normalement que ça devait être.
Non, c'était lundi. Ils avaient espéré descendre de 3 semaines à 2 semaines, que Yacouba Camara passe le fameux protocole de plaquage. Ça a été retoqué. La semaine des 3 semaines, il a été suspendu. Donc ça veut dire 2 semaines ramenées à 2 semaines. Donc la demi-finale et la finale. Donc le seul absent côté montpelliérain, ça sera Yacouba Camara.
C'est dur pour lui parce que c'est un... Oui, c'est un beau joueur, c'est un beau joueur très, qui est exemplaire, oui. En plus. Moi, je comprends. Oui, j'ai pas jugé la décision. Ouais, mais...
on a eu très peur pour Vinipola aussi. Hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant cette demi-finale. Ah oui, mais il a les genoux incroyables, quand même, ce garçon.
Et je sais pas comment il devrait être là. Ah oui, quand je l'ai vu quitter le Vélodrome samedi soir, je me demande comment il peut jouer samedi prochain. Il boitait, il m'a dit non, le genou ça va très bien. Donc
tu as vu, il est revenu dans la partie, il est rentré.
On pensait tous que sa saison était terminée, tous.
Un gros strap au genou samedi soir et ça tiendra la route.
D'accord, bon, tout va bien pour Vinipola. Les Toulousains, on en parlait avec Wilfried qui devrait donc enregistrer le retour de Thomas Ramos, absent la semaine dernière et qui va mieux. Ramos qui a été suppléé au pied vendredi dernier par Romain Ntamack. De toute façon, avec ces deux buteurs-là, Wilfried, tu es assuré d'être au très très haut niveau puisque Romain a fait du 100% aussi, je crois, vendredi soir.
Oui, et puis ça fait plusieurs semaines qu'il bute aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il pourrait même faire buter Antoine Dupont. Parce que je parlais d'autres fois des tirs au but qu'il y avait eu au Munster en 2022 et Dupont faisait partie des buteurs. Il a mis ses deux tentatives.
Là, c'est une finale, c'est pas pareil. Il faut prendre en compte que l'expérience du Stade de France, de Thomas Ramos, quand même.
Ah oui, c'est important, bien sûr.
C'est très important. Ouais. Pour moi, c'est très important.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Puis alors, il est chez lui au Stade de France.
Parce qu'au Stade de France, il est chez lui, il a les pénalités, il en loupe rarement. Fait des transformations.
Non, mais on le disait, on l'expliquait la semaine dernière, quand il était forfait pour cette finale. Il a marqué 54% des points du Stade toulousain en finale depuis 2019. Et 24 points l'année dernière. Donc, voilà, c'est pour vous dire l'importance.
La stat fait peur.
Et Ntamack, c'est 34 coups de pied réussis consécutifs. Et pas que des faciles, parce que vendredi soir, il y a des transformations en coin. Il en a 34 réussis d'affilée. Le record, c'est 48 pour Morgan Parra. Mais 34, ça prouve aussi la qualité.
Tu veux nous dire que les buteurs toulousains sont plus à même de non, tout que passer Domingo que Gautier... les buteurs montpelliérains.
Miotti, il est à 83 ou 4%.
Il a fait 100% contre le Stade français. Il est le troisième meilleur réalisateur du championnat. C'est un très très bon buteur, mais du côté de Toulouse,
il faut faire 100% au Stade de France en finale du championnat.
C'est ça. Là aussi, l'expérience sera importante côté, et l'expérience elle est plutôt côté toulousain avec Ramos et Ntamack. Mais ce garçon-là, cet Argentin Miotti, qui a donc fait aussi bien qu'Ntamack samedi, en réalisant lui aussi le 100%, un joueur sur lequel, vous allez l'entendre, en début de saison, Joe Codulo ne comptait même plus. Le manager montpelliérain, il n'en voulait plus quasiment. Écoutez-le.
Je lui ai dit après la demi, moi je pensais pas que ce joueur-là allait réaliser une saison comme ça et j'avais zéro confiance en lui l'année dernière, pour être très clair. Mais je trouve qu'il ressemble à l'état d'esprit de Montpellier, c'est-à-dire qu'il a rien lâché. Il m'a fait comprendre et même communiquer que je me trompais. Moi je dis non, je me trompais pas. Et puis au fur et à mesure, comme la fleur de ciste, il a rien lâché, il est pas mort. Pourtant, je l'ai enterré, j'avais fait le trou et tout, mais il est resté là et aujourd'hui, c'est notre meilleur 10, c'est un de nos meilleurs joueur et savoir se tromper. Et je suis content parce que ce mec-là est dans la vie un sacré mec et ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir l'aligner tous les week-ends sur le poste numéro 10.
J'avais fait le trou Codulo.
Non mais c'est un joueur incroyable. Ça d'extérieur, que Johan Codulo dise j'avais zéro confiance. À vous quand même en tant que manager, patron du sportif à Montpellier, dise j'avais zéro confiance en lui et finalement, entre parenthèses, je me suis trompé. Derrière quand même quoi, à un moment moi je trouve c'est louable pour Johan Codulo de dire ça, je trouve.
Donc côté buteur, on est quasiment à kiff-kiff, non, Denis, Wilfried?
Oui, parce qu'après, il y a Léo Colli sur le banc, côté montpelliérain, qui bute aussi très bien. Bon, légère avantage, mais toujours par l'expérience, pour Thomas Ramos et Romain Ntamack, qui en plus connaissent le stade. Et puis en plus, Romain Ntamack et Thomas Ramos jouent dans ce stade avec l'équipe de France. Ici, on leur repère.
C'est leur jardin.
ils ont l'avantage de ça. Mais voilà, les montpelliérains sont des bons buteurs, mais ils n'ont pas l'expérience de ce match-là.
Alors, s'il y a un domaine, tu en parlais tout à l'heure, mais on va peut-être rentrer un peu plus en détail, dans lequel le MHR peut regarder Toulouse dans les yeux, c'est bien son paquet d'avant, qui n'a fait qu'une bouchée de celui du Stade français la semaine dernière, alors qu'on disait que là aussi, c'était vraiment du 50-50 avant le coup d'envoi, qui avait également mis à mal le pack du Stade toulousain en septembre dernier. Le MHR est-il du même niveau que Toulouse, au niveau du pack, messieurs? Qu'est-ce que
c'est
vous en pensez?
Deux écoles différentes, non, Julien? Tu peux en parler mieux que moi, même. Parce que Montpellier, c'est une vraie culture de.
Il y a deux premières lignes quand même, deux premières lignes du côté.
Oui, mais c'est ça. Ils ont joué
aussi. Ils ont joué de même niveau.
Ils ont construit une armada, quoi, une armada devant qui est redoutable.
Après,
il n'y a pas deux équipes en France qui possèdent deux premières lignes du même niveau. Il n'y en a pas. Ça
après Montpellier,
pas.
Montpellier, c'est on l'a
il
vu.
Fait rentrer
samedi
la,
soir,
la deuxième première ligne, mais c'est aussi ouais. C'est même plus fort que la première. Enfin, t'as vu Oupakin qui a démonté le.
Comment
Oupakin.
Ouais, presque. Oupakin.
Oupakin. Patin.
Comme un patin. C'est pas mal. C'est ouais. Progressé.
Non, mais qui a démonté c'est... le. Je sais plus à l'OM ou.
Oui, à l'OM. Ouais. Non mais c'est une différence, Montpellier c'est du frontal, c'est du défi, ils ont des joueurs qui aiment le chocolat pour le coup, on l'a vu samedi soir, c'est une stratégie assez simple, hein. On va taper fort au milieu du terrain avec Vunipola, avec Duguide, Nouchi. Avec Nouchi, avec Oulézé, ils sont tous capables de taper très fort dedans, donc c'est simple, c'est ça le profil de Montpellier, et c'est de finir d'user la défense, ce qu'ils avaient fait d'ailleurs en mois de septembre contre Toulouse, après ils ont quelques joueurs capables de jouer, on pense évidemment à Florian Verrag, formé à l'école toulousaine, qui est l'avant qui réalise le plus d'offload de notre championnat, devant même des trois quarts, donc ça prouve aussi la volonté de Florian Verrag de jouer, ils ont Enzo Forletta qui est capable de jouer, mais la volonté de Montpellier, c'est d'aller taper fort dans l'adversaire, faire du défi, et sur la mêlée, évidemment, ils se régalent. Ouais. Alors que les Toulousains, c'est de jouer dans les espaces, de jouer dans
oui,
le dos.
Enfin,
et
s'ils arrivent... chaque fois qu'on dit que les Toulousains vont se faire prendre devant, Wilfried, à chaque fois, c'est
oui,
eux qui,
sûr, oui.
Qui sortent vainqueurs de.
Ah bah, il va
de
falloir qu'ils enlèvent le défi, il va pas falloir qu'ils s'enlèvent, hein, c'est sûr. Hein, parce ouais. Que Montpellier a fait plier tout le monde cette année devant, hein, dans l'impact physique. Donc, on se souvient des documents d'avant-match l'année dernière, avant l'UBB, où Mola disait « Oh les gros, c'est à vous maintenant !» Et là, il va certainement leur dire la même chose. Malgré tout, je pense que le Stade Toulousain va certainement essayer de déplacer cette équipe monolithique, cette masse montpelliéraine, comme il l'a un peu fait contre le Racing.
Mais ça court aussi quand même, ça court aussi du côté de Montpellier quand même, les avant
Montpellier. Oui, c'est mobile, c'est mobile. Et puis, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, peut-être Julien, c'est qu'ils vont risquer de faire un banc à 6-2. Est-ce que tu es informé ou pas?
Tu es peut-être plus informé que moi, mais non, mais ils vont évidemment, il sait que tout va se jouer.
Ça serait faire un bas 6-2, ça veut dire ce que ça veut dire.
Hein. Oui, je pense qu'il va mettre Adam Bird et il va mettre Adam Bird et Bastien Chalureau. Ils vont mettre deux, une première ligne avec trois, deux deuxièmes lignes hyper costauds et Massibaka probablement en troisième ligne. Mais voilà, non, mais. Après, la force de Montpellier, c'est aussi cette défense-là. Après, Johan Codulot nous disait lundi, vous savez, ça a tapé fort, mais on n'a pas trop couru contre le Stade français.
Alors, c'était mon interrogation. Est-ce qu'ils ont beaucoup couru
non.
Dans cette demi-finale ?
Johan Codulot dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses finalement samedi soir à haute intensité. Donc, la fatigue, elle n'est peut-être pas là. Mais bon, ça a tapé tellement fort que de toute façon, il faut pas être... Toulouse a bâti tous ses succès grâce à son paquet d'avant. Et le match, celui qui prendra l'ascendant devant samedi soir... sera pas loin du succès. Alors après, Toulouse a d'autres armes que les Montpellierains. Mais si Montpellier résiste devant, ils auront une chance.
On va y venir. On a, il nous reste très peu de temps. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Devant, on l'a dit, c'est à peu près du 50-50. Petit avantage quand même à Montpellier. En revanche, derrière, l'avantage va clairement au Stade Toulousain. Wilfried, la ligne de trois quarts du stade,
oui,
c'est
il faudra que Montpellier empêche les Toulousains de faire des offloads, hein, de se passer le ballon debout, devant ou dans
ce
la défense.
Ce qu'ils ont réussi à faire, ils jouent dans la défense.
Effectivement. Le Racing, on l'a dit, n'a pas défendu comme Montpellier va défendre. Mais si Toulouse arrive à enchaîner ça et arrive à enchaîner les rucks, où Julien l'a dit, le jeu au sol sera très important. Et puis après, il y aura une chose, c'est la prestation d'Antoine Dupont venir. Donc voilà, c'est s'il refait une masterclass, il est très difficile à arrêter.
Et il y aura la discipline aussi. Pour moi, c'est ce qui sera essentiel dans ce match, il me semble. Il ne faudra pas prendre de carton, sûrement pas un carton rouge, mais le moins de cartons possible.
Le moins de cartons possible.
Moins de 9 pénalités par match dans la saison, Montpellier.
J'allais dire Montpellier est très peu pénalisé.
Oui. Ça va être quoi le jeu montpelliérain, Julien? Touche,
chandelle.
Attaquer
les rucks, attaquer les rucks.
Occupation,
tous les ans pour les empêcher
au pied.
Rapidement.
Occupation au pied pour les laisser dans leur moitié de terrain, parce qu'après Montpellier et avec la section paloise, l'équipe qui récupère le plus de ballons sur les jeux aériens. Donc Montpellier va évidemment. Alors il va falloir qu'Ali Price soit plus performant dans son jeu au pied.
Oui, parce que Denis était très sévère envers Ali Price.
Ouais,
pour
avoir
soir,
discuté après avec Benoît Payog, il n'avait pas le même regard. Il avait trouvé qu'il avait fait plutôt un bon match, Benoît Payog.
Il a rendu les ballons
Benoît,
assez rapidement.
Benoît,
tu as
dit qu'il avait un grand jeu au pied, un long jeu au pied, non?
Non, il m'a dit qu'il avait fait ce qu'il fallait dans la gestion.
J'ai vu un jeu au pied aussi minimaliste, mais bon.
Il va y avoir de l'occupation Et après, il va y avoir du combat devant et puis des petites brèches comme Miotti avait pu voir pour laisser de Banks. Mais ça va être ça. Occupation, conquête, défense. Voilà, tu peux savoir le jeu montpelliérain.
Ça. ça va être assez minimaliste, mais il va falloir le faire magnifiquement.
Qui a dit que...
Wilfried le disait, le facteur X, c'est donc évidemment Antoine Dupont. De retour au sommet vendredi dernier, on se posait la question de savoir s'il allait retrouver toutes ses qualités. De la prestation de Dupont dépend souvent celle du Stade Toulousain. C'est un vrai baromètre, même si il n'a pas toujours été là lors des matchs clés. Il n'était pas là en finale l'année dernière, ce qui n'a pas empêché Toulouse de gagner. Antoine Dupont, qui lorsqu'il est en forme, amène le petit supplément de confiance à ses coéquipiers. C'est ce que nous explique Mathis Lebel.
Ça lui a fait du bien, non, les six semaines. Non, franchement, il a fait un gros match quand il est à ce niveau-là. Il nous porte déjà rien que par l'aura qu'il peut dégager sur le terrain ou sa présence sur le terrain. Et en plus, quand il arrive à être décisif et à nous faire briller et à mener notre jeu, forcément, on le sait. Peut-être le truc en plus, c'est un joueur qui est différent. Je suis très content pour lui. J'espère qu'il fera une grosse performance surtout le week-end prochain. Et après, on fera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur Antoine ou pas. Mais en tout cas, nous, on est très content d'avoir l'équipe. Et je sais que l'équipe n'a jamais douté d'Antoine.
Voilà, l'équipe n'a jamais douté d'Antoine.
Une chose certaine, c'est qu'il est en forme et qu'il sera bon samedi soir.
Et vous pouvez rajouter Romain.
Il peut faire gagner ce match.
Bon, voire très très bon, voire excellent. Donc non, mais là, il est revenu à son meilleur niveau. Enfin, pratiquement.
Vous pouvez rajouter Romain Tamac dans l'équation, oui, qui est excellent.
Tu as raison, je voulais en parler aussi. Je pense la charnière qui va contrôler le match, comme ils l'ont contrôlé face au Racing. Enfin, il faut leur souhaiter.
Alors, l'heure des pronostics est venue, messieurs. Qu'est-ce que vous allez nous dire? On va commencer par toi, Denis, même si tu es quand même un peu... Ah là, tu es un peu partagé, parce que Bernard Laporte, c'est...
Non, mais je vais essayer d'être objectif.
Toulouse, c'est ton club.
Je ne vois pas Toulouse perdre. Voilà. Donc après, tu mets un Toulouse entre 1 et 7 ou entre 8 et 14. Mais en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de différence de points.
Ce ne sera pas la même finale qu'il y a deux ans, par exemple. Plus celle de l'année dernière.
Je vois plus une victoire toulousaine entre 1 et 7. Et voilà.
Wilfried.
J'aurais pu dire la même chose.
Voilà. Ouais. D'accord.
Même si c'est très difficile de dire c'est un tel qui va gagner, on le disait au dernier podcast. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans un match. Et Montpellier a beaucoup d'armes. Et sur le papier, avec tout ce qu'on s'est dit, toute l'expérience, Toulouse, c'est
fait. Ça va être complicat, comme on dit.
Complicat. Bon, Julien, tu ne peux pas donner la victoire toulousaine. Toi, ce n'est pas possible.
Ah non, lui, non.
Sinon,
il le brûle.
Ton ADN le refuse.
Sur la place. Non,
si c'est le Toulouse de vendredi dernier, si c'est le Toulouse de la finale contre Bordeaux, Montpellier n'existera pas. Mais il faut être honnête, Montpellier va finir par céder, et quand Montpellier va céder, ils finiront par lâcher. Si c'est le Toulouse de la finale contre La Rochelle, où les Rochelais avaient justement réussi à les prendre devant, les Montpellierens auront des chances. En fait, c'est Toulouse qui a la clé.
Faut qu'ils jouent jusqu'à la 80e, alors faut leur dire.
Oui, c'est ça. Non, mais si Toulouse est à son niveau.
Tu te fais du mal, oui.
Toulouse sera champion. Si Toulouse est un peu en dessous, Montpellier sera pas loin de créer la grosse surprise.
Bon, on espère en tous les cas une finale disputée. Pourquoi pas des prolongues comme l'année dernière.
Oui, un match serré, s'il vous plaît. Pas 70 points.
Non, franchement, c'était une pure...
Ça, c'est fini.
Non, on n'en veut plus des matchs comme ça. Merci messieurs, on se retrouve donc samedi soir en direct du Stade de France.
Avec toi, avec Wilfried.
Julien,
Julien sera pas loin.
Tu montes
serai
quand même.
Aussi, bien sûr.
Il monte à la capitale.
Je monte dans le train avec les joueurs, on va voir ce qu'on va décider. Si
tu vas arriver fatigué alors. Très bien, prise d'antenne. 20h samedi soir, coup d'envoi à 21h05. On sera tous là pour vous faire vivre cette finale et on espère qu'on va se régaler. Merci messieurs et à samedi soir.
Ciao.
Entre les poteaux.